Et oui, le générique qui nous poursuit depuis 4 saisons, il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Vendredi Théâtre, l'émission qui commente l'actualité théâtrale sur Montpellier et région. Et je suis avec un des chroniqueurs de Vendredi Théâtre, je suis avec le jeune Robin. Bonjour Robin.
Bonjour Florent.
Et nous allons parler de Mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Hélène Alexandridis. Bonjour. J'ai le plaisir aussi de recevoir Jules Sago, bonjour.
Bonjour.
Et Mathieu Gérin. Je savais que j'allais me planter.
Bonjour.
Bonjour, donc vous êtes assistant à la mise en scène.
C'est ça.
Et donc nous avons donc la mère et l'un des fils avec nous. Alors cette pièce donc de Arthur Miller, c'est une pièce qu'il a écrite en 1949. Et c'est quand même une dénonciation un petit peu du rêve américain, non ?
Oui, on peut dire ça. On peut dire aussi que c'est un drame familial. Disons que la trame familiale et la trame sociale sont tissées l'une dans l'autre. Mmh. Voilà, pour résumer un petit peu grossièrement la pièce.
On va résumer un tout petit peu. Robin, toi, c'est la première fois que tu voyais du Arthur Miller, si je ne me trompe
oui,
pas.
Oui, je ne connaissais d'ailleurs même pas Arthur Miller. Je connaissais Henri Miller, bien sûr.
C'est pas le même.
Et pourtant, c'est un grand du théâtre.
C'est pas le même genre d'écriture.
Oui. Non, pas du tout
le même genre d'écriture. Ben Arthur Miller, on le connaît, donc c'est sa pièce la plus célèbre, hein, Mort d'un commis voyageur.
Oui, parce qu'elle a été adaptée au cinéma.
C'est pas Volker Schlendorf qui avait fait ça avec
Dustin Hoffman. Qui n'était pas un très bon film.
Non.
Mais bon,
ouais. Non. Et puis on le connaît aussi pour Les Sorcières de Salem.
Tout à fait. Hein,
qui avait été adapté au cinéma, je crois, avec Yves Montand, il y a un certain nombre d'années, avec une adaptation de Jean-Paul Sartre et de Marcel Aimé, je crois, ne pas me tromper.
Je vous laisse, je ne sais pas.
Alors La Mort d'un commis voyageur, c'est une nouvelle traduction, là, j'ai vu. C'est donc la metteuse en scène qui a réadapté le texte.
Oui, c'est ça Mathieu, je crois.
Oui, c'était la volonté de Claudia Stavisky de refaire une traduction pour être au plus près de la langue d'Arthur Miller, parce que les traductions qui existaient auparavant étaient plutôt adapté à la française de façon littéraire comme on le faisait à l'époque. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à faire des traductions vraiment avec ce que veut dire l'auteur et non pas ce qu'il a voulu dire. Donc voilà pourquoi.
Peut-être plus théâtral aussi.
Oui, et puis aussi parce qu'Arthur Miller écrit très très direct. C'est une langue très urbaine, très, très. C'est pas de la littérature en fait. C'est pas des gens qui sont. Ils sont pas, c'est pas des héros non plus. Ils ont pas les bons mots pour arriver à s'expliquer et à communiquer. C'est des gens comme nous tous et du coup c'était.
Donc c'est une langue populaire, on peut dire.
Oui.
Alors Robin, est-ce que tu peux nous donner tes impressions, toi qui.
Oui,
c'est vrai. Qui découvrais Arthur.
T'en parlais et tu disais que c'est pas de la littérature. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté un petit peu cinématographique dans la mise en scène et dans la lecture que j'ai eue de la pièce. Il y avait cette famille, le quatrième mur qui était très très présent du coup dans cette pièce. Et on était spectateurs, on assistait du coup au drame familial. Voilà, comme tu disais aussi, qui est tissé entre le drame familial et le drame social. Et tout ça basé sur finalement le mensonge et sur qu'est-ce qui nous construit, sur quelle identité on se construit, que ce soit dans la société ou dans la famille. Et ici, c'est vrai qu'il met un sacré punch dans le mythe américain, dans le mythe du self-made man, dans le mythe de la méritocratie. Et du coup, c'est la destruction programmée en fait, d'une famille. Dès le début, on sent que toute l'histoire est fausse, que toute l'histoire est pourri depuis le début en fait parce qu'ils se basent sur des valeurs qui sont des valeurs d'une compétition qui est faussée dès le départ et qui est celle du capitalisme, à savoir que les gens qui sont en bas de l'échelle sociale ils pourront jamais accéder à un rêve de pouvoir et un rêve de richesse, et finalement même ce rêve là c'est un rêve qui est pas du tout enviable et qui a rien d'un rêve lié à l'amour, et du coup cet amour là Et aussi faux dès le début. Enfin, faux et vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que du coup, il y a ce père qui va être un peu comme un espèce de manager de son fils, un manager amoureux de son fils, qui va vouloir faire d'un de ses deux fils le symbole de l'autorité, de l'aisance, de l'homme. de l'homme accompli américain. Et à la fois, du coup, il lui monte un tel ego que ce personnage, lorsqu'il va rencontrer la réalité, que ce soit la réalité du travail, la réalité sociale en dehors de la construction de cet univers très protégé qui a été construit par son père, il va complètement déraper, sortir des circuits que son père attend de lui, ne pas se mettre à travailler dans l'entreprise, sortir des chemins établis et aller travailler, gagner sa vie de façon un peu misérablement. Et du coup, la pièce commence sur ce retour du fils dans une famille qui est en survie, en fait, qui survit. Et le rapport de l'amour est très problématique dans cette pièce. Est-ce que finalement c'est l'amour qui serait incompatible avec le capitalisme ? Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouh là là là, alors là, il faudrait des heures et des heures pour parler de la compatibilité entre l'amour et le capitalisme. Vous avez, je crois, assez bien raconté la pièce. Moi, je pense que les choses sont évidemment à la fois plus compliquées et beaucoup plus simples. C'est-à-dire que la raison pour laquelle, par exemple, cette pièce et ce spectacle touchent beaucoup les gens, je pense que c'est parce que on s'identifie énormément à tous ces personnages. Alors quand je dis tous, c'est vraiment tous, parce qu'ils incarnent un peu des types de caractères, je dirais. Et sur la question de l'amour, je crois au contraire que c'est une famille très très aimante, très aimantée, sans mauvais jeu de mots. Et aimante, et simplement, comme tous les parents et comme tous les enfants, ils ne s'aiment pas comme ils voudraient aimer et comme ils voudraient être aimés, d'où les quiproquos et puis les choses qui s'installent et qui font qu'au bout d'un moment, entre, comme vous dites, les choses qui sont cachées, les mensonges, les choses qu'on ne dit pas mais qui se voient, ou qu'on montre autrement, y a des distances et des malentendus qui se créent. Voilà. Mais sur la question de l'amour, je pense que cet homme aime éperdument ses fils, aime sa femme, qu'il protège à sa manière, très maladroitement, mais il la protège aussi. Sa femme adore son mari, elle le protège aussi de beaucoup de choses, maladroitement, avec ses moyens. Et les deux fils font pareil. Ils n'ont pas la même place au regard dans le regard de leur père, mais je pense qu'ils ont ils ont de l'amour, c'est sûr, et ils en donnent beaucoup aussi. Ce qui c'est compliqué l'amour.
Moi, j'ai trouvé que le personnage de la mère est assez fabuleux parce qu'elle essaye de protéger tout le monde. Elle comprend plein de choses et puis en même temps, dès qu'elle essaye de dire quelque chose, on lui dit tais-toi. Son mari lui dit tout le temps tais-toi, ne m'interromps pas, je parle et tais-toi.
Oui, c'est une femme aussi de cette génération, hein. C'est faut replacer un petit peu dans le contexte, mais ça c'est pour moi c'est un petit peu anecdotique, moi ça me fait plutôt rire, hein. C'est plutôt je trouve pas ça oui bien sûr on peut voir ça de l'extérieur comme une manifestation excessivement misogyne de...
Mais on est en 1949. Hein.
Voilà. Alors, je ne dis pas que ça n'existe plus. Hein,
mais même que ça revient.
C'est possible, je ne sais pas. Mais le plus important dans l'attitude de cette femme, c'est ce qu'elle veut préserver. Alors, comme on sait, c'est toujours difficile de tout préserver. Quand on veut tout préserver, on gâche beaucoup de choses. Donc elle est pas toujours elle arrive pas à sauver son mari puisque ça s'appelle quand même mort d'un commis voyageur. Oui. Donc on sait depuis le début qu'il va mourir. Donc voilà, on peut dire que son amour ne suffit pas, mais comme l'amour ne suffit jamais.
Et ce qu'il y a d'étonnant dans la pièce aussi, c'est son incroyable modernité, puisqu'elle est écrite en 1949, mais elle parle tout à fait à nous, ou dans une société où on ne sait pas si les enfants vont avoir le même niveau de vie que les parents, dans une société qui est en crise perpétuelle. Moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est cette modernité du texte.
Oui, c'est pour ça que les gens... comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois les gens sont touchés par l'histoire personnelle, familiale de cet homme, mais aussi par sa situation. On entend bien que les scènes dans lesquelles il va voir son employeur pour lui demander d'ajuster un petit peu son emploi du temps, on sent bien qu'il est un petit peu dépassé par les nouvelles méthodes de travail, qu'il y fait partie d'une autre génération qui est en train d'être dépassé par les nouvelles méthodes.
Puis il est un peu usé aussi, parce que ça fait des années qu'il est sur les routes.
Voilà.
Et d'ailleurs, ça commence par un accident, un accident de voiture.
Et il n'y a pas de... Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte qu'il faut être toujours très fort et très performant. Donc ça, oui, ça existe fortement aujourd'hui. Oui, où il n'y a pas de place pour ceux qui marchent plus lentement ou ceux qui veulent... Ou alors, il faut être totalement marginal, ce qui n'est pas son choix à lui. Lui, il veut faire partie de la vie, il veut faire comme tout le monde, il veut pas du tout se mettre à l'écart. Mais on le met à l'écart.
Oui, ça pose la question aussi de savoir en fait comment sortir d'un schéma familial, comment sortir de cet amour du coup qui va être finalement coercitif, qui va l'empêcher d'aller voir ailleurs.
Et ça, c'est vous parlez de quel personnage
du personnage du fils. Du fils,
oui. Ah oui, parce qu'on parlait du père, là, c'est pour ça que je vous suis plus.
Oui, pardon. Oui, il y a un des fils, du coup, celui qui...
Le fils aîné.
Le fils aîné qui rompt avec toutes les attentes de son père. Ça existe toujours aujourd'hui, entre l'attente des parents et la stabilité, en fait, la stabilité, la sécurité. Et comment sortir, du coup, d'un schéma d'équilibre et de stabilité et trouver quelque chose d'une autre sorte de stabilité qui soit... Ni basé sur celle financière, ni sur celle de la reconnaissance par le travail. Et ça, c'est vrai que ça, c'est toujours prégnant aujourd'hui.
Mais c'est l'histoire éternelle des enfants. Et les enfants, ils doivent s'émanciper. Donc, c'est difficile.
Oui, là, c'est radical quand même. Là, c'est une émancipation qui est radicale. Et puis, parce qu'il est...
Oui, c'est radical par les circonstances. Oui. Mais ce que ça raconte que les parents doivent aider les enfants à partir et les enfants doivent aider les parents à accepter de partir. Que s'il y a un amour filial qui sert à quelque chose, c'est ça. C'est là qu'il est, c'est cet amour-là. Donc, c'est ça que ça raconte. Alors, il n'y arrive pas. Bon, voilà, mais on ne peut pas tout réussir dans la vie.
Je vais me tourner maintenant vers Jules Sago. Donc, vous jouez l'un des fils. Vous pouvez nous dire un petit peu plus sur votre personnage ? Vous jouez quel fils, là ?
Alors, moi, je joue le deuxième fils, qui s'appelle Happy. Alors, moi, c'est un fils en qui on place aucun espoir, a priori. Et en fait...
Tous les espoirs sont placés dans le fils aîné.
Dans le fils aîné. Moi, je l'accepte complètement et je place aussi mes espoirs dans le fils aîné. Et puis, la position d'Happy, elle est assez simple. J'ai suivi à peu près tous les modèles édictés par mon père. Et en fait, je me retrouve pas heureux. Je pense qu'il est pas heureux. Sa vie est pleine de vide, mais il ne comprend pas pourquoi. Parce qu'il... Il répond aux valeurs qu'on lui a édictées, qui sont des valeurs de un peu bouffer l'autre, dépasser l'autre, posséder des choses, grandir. Donc je pense que Happy, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis parce qu'il a des valeurs qui sont... Et il a simplement sa cellule familiale avec qui il est très aimant. Et c'est la seule chose importante parce qu'il n'aime pas son travail... Il le dit, donc il travaille pour l'argent et il commence à avoir un peu d'argent. Il a des femmes, il est assez beau, mais sa vie est vide.
Vide. Et il marche aussi sur le mensonge, c'est-à-dire qu'il entretient le mensonge chez son père, même chez son frère.
Oui.
Il est tout le temps en train de mentir. Et puis
je l'entretiens, la mère aussi. Ce dont Claudia parlait, c'est qu'elle pense que Happy est proche de sa mère et Biff est proche de son père. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui fonctionnent comme ça. Je pense qu'avec la mère, on a l'envie d'aller de l'avant, cette envie de mensonge aussi, qui voilà, et on manifeste notre amour comme ça, ouais, je pense. Alors que Willy et Biff, c'est autre chose. Je trouve qu'il y a quelque chose de différent où ils se rejoignent aussi. Mmh.
Il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé, c'est le personnage de l'oncle, qui est un personnage qui apparaît de temps en temps, qui est une espèce de fantôme, et c'est celui qui a réussi. On ne sait pas très bien s'il a réussi en Alaska ou en Afrique, mais il revient tout le temps pour dire, ben voilà, je suis celui qui a réussi. Et le commis voyageur, donc il dit aussi, mais si j'avais écouté mon frère, je serais parti avec lui en Alaska, et là j'aurais réussi, j'aurais de l'argent, parce qu'on parle tout le temps d'argent, en fait, dans cette histoire.
Oui, puis lui, il est basé sur une réussite directe. Et il dit, si je me souviens bien, moi, à 17 ans, je suis parti, je suis allé dans la forêt, et puis, à 21 ans, je suis revenu et j'étais riche. Et c'est la seule chose qu'on connaisse, enfin, sans explication, cette richesse. Du coup, c'est une richesse qui est vantée aussi. Enfin, la richesse sans les causes, sans le pourquoi, c'est une richesse qui est complètement inhumaine qui revient et qui, pour lui, est un modèle. D'ailleurs, on voit qu'il se réfère à un moment. Il y a toujours cette question de l'éducation dont on parlait, et savoir mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que mes fils... Je ne sais pas, finalement, il ne parle pas forcément tant que ça de bonheur, en fait, dans la pièce.
Il parle beaucoup d'argent.
Parce que, ouais, moi j'ai l'impression...
Mais l'argent fait le bonheur, des fois.
Non, moi, j'ai l'impression, parce que tout à l'heure, on parlait de critique du capitalisme, ou que la pièce, elle parle de ça. J'ai l'impression qu'elle parle aussi de la cruauté de ce système,
oui,
certes, et de comment on négocie avec ce système, parce qu'il y a quand même des exemples de gens... qui réussissent avec ce système. Donc, je trouve que plus qu'une critique, c'est une interrogation de ce système et de comment...
Tu trouves pas, Mathieu, que c'est aussi cet oncle, là, pour le coup, c'est une figure vraiment mythique.
En plus, on imagine très bien que cette richesse dont il parle, elle n'est pas très propre.
Mais vous disiez tout à l'heure que c'était une espèce de fantôme. C'est pas une espèce de fantôme, c'est un fantôme.
Voilà.
Puisque c'est son frère qui est mort 15 jours plus tôt.
Oui, c'est ça.
Ils ont reçu une lettre leur annonçant à Willy et à sa femme que Ben est mort. Et en fait, quand Ben apparaît, tout ce qu'il dit, et quand Willy lui demande comment t'as fait, comment t'as réussi, il ne lui répond jamais. C'est Willy qui se parle à lui-même et qui n'a pas, entre le départ et la réussite, l'explication. Tout comme personne ne l'a, je pense. Il n'y a pas de recette, il n'y a que du travail. Et c'est simplement qu'on n'arrive pas à ce résultat-là avec rien au milieu. Et je pense que c'est ça que...
Mais du coup, quand on ne sait pas, c'est dans toutes... Enfin, pas dans toutes les familles, mais il y a des histoires comme ça dans des familles, d'un oncle qui part à l'étranger. Mais tu sais, alors c'est un oncle et il est parti, il n'avait rien avec sa valise. Et puis alors, il a fait fortune. Et ensuite, il avait deux boutiques, etc., etc., ou une tante... Donc ça alimente aussi le fantasme, ça fait partie du rêve, parce que ce qui est important aussi, c'est de continuer à rêver. C'est-à-dire que c'est pas grave de plus avoir d'argent, c'est pas grave de... Si on rêve plus, alors là, il reste rien, quoi.
C'est bien ce qu'il tue.
Mais bien sûr, bien sûr.
Parce que,
absolument.
D'autant que Ben, quand il apparaît, là, le personnage qui est joué par Sava Lolov, il a une quarantaine d'années, alors qu'on apprend que Ben est plus vieux que Willy. Et donc, s'il existait vraiment, c'est lui qui en fait une figure vraiment qui agence toutes les explications. Il ne l'a pas vu tant de fois que ça dans sa vie. Ils n'ont peut-être jamais eu ce genre de conversation sur la réussite. C'est lui qui s'est tout le temps posé la question, et c'est les questions qu'il aurait voulu lui poser. Et c'est à chaque fois qu'il part, qu'il veut lui poser ces questions-là dans la précipitation. Et finalement, il n'a pas la réponse et il ne l'aura pas. Mais...
Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'un spectacle des 13 vents, mais ce n'est pas au théâtre des 13 vents, j'ai oublié de le dire, c'est à l'Opéra Comédie, hein, donc juste à la place de la Comédie. Donc, Mort d'un commis voyageur, donc ce soir c'est à 20h30 et samedi c'est à 19h.
Et ça dure 2h20.
Et on ne les voit pas passer.
Merci beaucoup.
Robin, je crois que tu as beaucoup aimé. Tu m'avais dit en sortant du spectacle que tu avais beaucoup
aimé. Oui, c'est des choses qui m'avaient touché. Quête de l'identité, les vérités. Parce que ça m'a fait vraiment réfléchir aussi. Ouais.
Merci de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau de
Merci
Vendredi Théâtre.
Merci.
Et on va se
Merci.
Séparer avec du Bill Evans. Et oui, on est obligé d'interrompre Bill Evans, le trio Bill Evans sur Divergence FM. Je vous rappelle que vous êtes sur Vendredi Théâtre, Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de théâtre. Et notre deuxième plateau est arrivé. Les chroniqueurs sont arrivés. Il y a l'inénarrable Tito Livio qui est avec nous. Bonjour Tito.
Bonjour.
Et le fringant Christopher. Bonjour Christopher.
Bonjour Florent.
Alors, nous allons parler maintenant d'un spectacle qui se passe au Carré Rondelet. On aime bien ce qui se passe au Carré Rondelet.
Ah oui.
Il s'agit de la vie inestimable du grand Gargantua. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Sylvie Delon. Bonjour.
Bonjour.
Et je n'ai pas écorché votre nom.
Non, ça va.
Alors, moi, je n'ai pas encore vu le spectacle, mais Tito et Christopher l'ont vu. Donc, Gargantua, c'est un spectacle énorme, a priori.
Eh bien, écoutez, c'était d'abord un texte énorme à aborder, mais un texte tellement truculent, tellement joyeux, tellement dans le gai savoir. C'est-à-dire qu'en plus, on rigole, mais en disant des choses qui sont importantes pour la vie de tout le monde. Donc, en buvant, en mangeant, en rotant, en pétant, pas le public, ni moi-même, mais je le dis.
Et Gargantua le fait.
Voilà, il le fait.
Alors, qui veut commencer ? Christopher.
Tu vois, Florent, je pense que si tu étais allé voir le spectacle, tu aurais beaucoup apprécié.
Oh, mais j'adore, moi, Rabelais, Gargantua. C'est vraiment un auteur qui est de mes auteurs fétiches. Et il ne faut pas oublier que dans Gargantua et dans Rabelais, il y a beaucoup de poésie.
Alors, c'est une langue qui est absolument merveilleuse. Alors, la seule chose, c'est que comme c'est écrit dans une langue qui n'est plus la nôtre, il faut la réadapter aujourd'hui et lui rendre son côté à la fois gras, truculent, épais, foisonnant. Il faut absolument faire s'entrechoquer les mots pour rendre, en fait, dans une langue d'aujourd'hui, un esprit qui est plus ancien que le nôtre.
Mais dans quelle mesure vous avez retravaillé le texte, alors ?
Énormément retravaillé. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai mélangé des stylistiques du 16e, du 18e, du 19e et du 20e siècle.
Donc de façon... Rien que ça.
Et la musique fait la même chose dans le spectacle. Elle mélange différents styles, c'est-à-dire ça va du modal à des petits clins d'œil au jazz, même à Big Ben dans une chanson, et des choses comme ça. C'est-à-dire on garde ce foisonnement, on a mis en avant le côté universel, intemporel et contemporain de Rabelais, parce que ça n'a pas bougé en dehors de la barrière du texte, qui est difficile parce que c'est une langue ancienne. Tout ce qui est dit est d'aujourd'hui.
Et en plus, Rabelais, il faut le rappeler, il a fait ses études de médecine à Montpellier.
À Montpellier, il y a une statue de Rabelais.
Il y a une rue Rabelais aussi.
Et il y a sa maison.
Ben, tout va bien. Donc, il est en terrain connu. On le célèbre avec une ambiance locale, appropriée.
Et il était médecin à Lyon.
Oui, tout à fait. Donc, nous sommes plutôt de la région de Lyon. Et c'est vrai que Rabelais a dû beaucoup se déplacer parce qu'il était limite au niveau de sa pensée. Donc, il a dû être beaucoup protégé quand même. Hein. Donc, voilà.
Il s'est beaucoup déplacé. Moi qui viens de Metz, il y a aussi la maison où il a habité à Metz.
Voilà.
Je suis poursuivi par Rabelais.
Mais j'ai l'impression qu'il était en train de visiter tous les vignobles français, peut-être.
Alors, Rabelais, s'il célébrait énormément le vin, la nourriture, la bonne chère, c'est plutôt pour lui une façon de relier les joies du corps aux joies de l'esprit, tandis que lui-même, étant médecin, il n'était pas fou. Il n'était pas ivrogne. Il était non, et il mangeait relativement sobrement, puisque en tant que médecin, il savait très bien. Donc, le Gargantua n'est pas Rabelais de la vie.
Non.
C'est nous. C'est nous qui avons besoin de jouir de la vie dans sa profusion pour atteindre la sagesse. Hein. C'est-à-dire que la sagesse, elle n'est pas serrée du derrière, elle n'est absolument pas « je lave plus blanc, j'ai les mains jointes et les yeux au ciel et je marche pieds nus dans des chandales ». Rabelais, la sagesse, elle est liée vraiment. Le moine de Rabelais qui s'appelle Frère Jean des Entômeurs, c'est un moine qui aime vivre. Hein, il va s'emparer de la croix quand même pour combattre les armées tyranniques.
Ce qui est génial dans ce texte, dans le Rabelais, dans la manière dont vous le faites, c'est qu'on voit un mélange à la fois d'humanisme et de culture populaire. Il y a certaines blagues qui peuvent être comprises par personnes plus cultivées, enfin à l'époque j'imagine, et en même temps une culture totalement populaire, truculente, voire scatologique.
Ouais, c'est à double sens. Hein. De toute façon, j'expliquais à une séance de lycéens que le fait que ça soit très caca-pipi, déjà l'enfance de Gargantua, c'est parce que déjà c'est l'enfance, c'est caca-pipi de toute façon.
Mais déjà la naissance de Gargantua. Voilà. Donc, puisqu'on rappelle que sa mère, c'est Gargamel, si je me trompe.
Oui.
Elle accouche donc de Gargantua suite à une indigestion de tripe au vin blanc et elle accouche par l'oreille.
Exactement. D'ailleurs, on a dû lui boucher le derrière. Hein, donc, qu'à peine vous l'eussiez élargi, même avec vos dents, tellement il était bouché. Dit Rabelais.
Tito, tu t'es pas encore exprimé.
Non, mais c'est aussi important de rappeler l'importance de Rabelais dans le monde entier, puisque il était très chéri des romantiques. Moi, j'ai trouvé ça, par exemple, chez un écrivain portugais sur lequel je travaillais. Mais aussi, chez les Italiens, on trouve, quand on travaille sur la littérature, on trouve des références à Rabelais, plus ou moins cachées, ne serait-ce qu'à souvent le thème de l'abbaye de Thélème. est souvent traité. Il y a eu George Sand qui l'a traité, etc. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important. Il faut penser aussi, je voulais dire tout à l'heure, c'est que l'Inquisition n'est pas née en Espagne, elle est née en France, ici d'ailleurs dans le sud-ouest. Et donc, c'est incroyable, justement, qu'il ait pu écrire ce qu'il a écrit, puisque l'Inquisition, au contraire de ce qu'on fait croire dans les livres d'histoire, elle existait en France. Mm-hmm. Et donc, et l'index, et la censure, et les persécutions, et même les autos d'affaires, ça existait aussi en France.
L'Inquisition, c'est les Dominicains d'ailleurs.
Oui.
J'adore dénoncer les curés, moi, de toute façon.
Les Dominicains, et leurs flics étaient les franciscains et les moines mendiants.
Bah, toute la clique qui était. Hein.
On faisait le flicage.
Ce qui est intéressant avec Rabelais, c'est qu'il fait le testament justement d'une époque où la parole était libre, notamment de la fête des fous, où l'on pouvait amener un âne sur l'autel, le faire braire, dire la messe, faire chier sur l'autel pendant le carnaval, qui a été peu à peu interdit, voire totalement maintenant refusé. Et Rabelais, c'est une sorte de témoignage, de testament de toute une époque, et en même temps qui ouvre totalement sur la modernité. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, l'idée de la fête des fous médiévale, c'est une idée dans laquelle je me reconnais complètement. C'est-à-dire, c'est pas... disons, contre les curés, c'est une inversion des valeurs qui permet de régénérer la société. Donc, par exemple, quand on fait caca, on fertilise le sol. Donc, le sol permet de revivre des choses. Et c'est ce que dit Rabelais, en fait, en réalité. Il fertilise notre vie. Il fertilise par le rire, mais il la fertilise proprement. Dire, on fait caca, on récupère le caca, on le met sur la terre, et puis ça pousse, ça fait des fleurs.
Non, mais le carnaval était une fête religieuse, même si elle est récupérée, comme toutes les fêtes, de toute façon, dans toutes les religions. Celle qui vient après récupère les fêtes des précédentes. Donc, ça ne sert à rien de dire que c'était une fête païenne. Elle était religieuse. Au Moyen-Âge, on fêtait carnaval et c'était tout à fait de façon... c'était une pause un peu laïque, c'est vrai, mais tout à fait admise par la conjoncture religieuse de l'époque qu'on fasse ça. Au contraire, on trouvait ça très bien. C'est comme les fous hein, dans la cour. C'était un contrepoids et le carnaval et toutes ces fêtes comme ça. Était un contrepoids.
Parce que tu parlais de l'influence de Rabelais tout à l'heure, rappeler qu'il a une influence énorme sur Honoré de Balzac, qui a écrit d'ailleurs les contes drôlatiques à la manière de Rabelais. Voilà, oui. Petite parenthèse. Christopher.
Oui, mais je voulais revenir sur Gargantua, sur Rabelais, parce que déjà dans le spectacle, c'est très 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 épicé, truculent, les mots. Vous avez des scolaires aussi. Moi, je sais que c'est étudié normalement en première, avant seconde, mais normalement en première. Comment ça se passe au niveau des scolaires?
Alors donc, c'est au niveau lycée, hein, pas avant, parce que même s'il étudie un peu en cinquième, ça les dépasse totalement, ne serait-ce que l'esprit. Hein, l'esprit, c'est pas le texte, c'est l'esprit. Mais là, on a joué devant les premières et terminales. Avec le langage, ils riaient pas beaucoup parce que c'était le temps qu'ils traduisent, mais ils ont adoré le spectacle, ils ont applaudi, les voyaient un peu réagir à la chanson du torche-cul, puisque l'énumération que Rabelais fait sur l'invention du torche-cul, on en a fait une chanson.
Ah, c'est quelque chose. Hein.
Un peu à la Brassens, comme cirer est le propre de l'homme. Il est un point où l'homme est comme ses frères semblables mammifères. On a beau dire, on a beau faire, buvant, mangeant par conséquent, vaille que vaille, s'éripaille, s'épanche de sa panse quand le tri est fait en ses entrailles. Alors, à l'abri des regards, dans un petit coin bien peinard, il dépose là son étron, sans gêne, sans apprêt, sans façon, que l'action soit plus ou moins longue, qu'elle soit courte ou bien oblongue. Cette matière étant lâchée, le derrière, il faut se torcher. D'un cachenet, d'un martinet, etc. Puis un refrain qui s'appelle « C'est la danse du torche-cul, pétard à dantonner des vertus, c'est la danse du torche-cul, bien heureux ceux qui l'auront vécu. » Et le public reprend en chœur torche-cul. Et il y a toute la liste des essais de Gargantua sur le torche-cul. Puis il finit dans le texte de Rabelais, il se blesse le derrière. Dans ma chanson, on n'a pas le temps, parce que j'ai pas le temps de tout traiter, mais en tout cas, il choisit un oison. un oiseau bien duftu, bien plumu, et ce fut là le meilleur des torche-culs.
Mais il y a un autre passage d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans Rabelais, où Gargantua pisse du haut de Notre-Dame.
Exactement.
Et il va noyer tout un tas de Parisiens.
250 000 exactement. 260 000 même. 260 000. Hein. Donc il se réfugie en fait en haut de l'université, les survivants, et puis il se met à jurer. Et il faut dire que Gargantua, avant de pisser, a dit « Je vais leur payer à boire, mais ce ne sera que par rire, enfin pour de rire, quoi. » Et dans ce cas-là, ils se mettent, après, les survivants se mettent à jurer « Parbleu, Morbleu, ventre Saint-Gris, Christi, Sacristie. » Et à un moment donné, ils disent « Nous sommes noyés par rire. » Eh bien, c'est à la suite de cette flopée de mots fleuris que fut prononcé pour la première fois le nom de Paris.
Voilà. Mais en parlant justement de Paris, il y a une critique des Sorbonnards et de la faculté, qui, enfin, étant moi-même ayant passé pas mal de temps à l'université, Tito aussi, tu étais à Paris d'ailleurs, est-ce que l'ambiance a changé?
J'étais à la Sorbonne.
Eh bien oui, la Sorbonne n'a pas changé. Enfin, dans ces dernières années, elle s'est.
Pas beaucoup.
Voilà, mais il y a encore 20 ans, elle était complètement pareille qu'à l'époque de Rabelais.
Alors, le rythme de vie de l'étudiant est très bien résumé par Rabelais.
Voilà. Alors, donc Rabelais, en fait, en fait des caisses. Nous, on a résumé ça en 10 préceptes, donc ne pas se lever avant 9h du matin, boire, rôter, fianter, éternuer, étudier une méchante demi-heure, aller voir les filles, jouer, voilà, tout ça, je bois des coups en même temps, enfin pas trop, sinon je ne peux pas tenir le spectacle, mais les gens ont beaucoup, c'est du vin que j'ai sur la table.
C'est du vrai vin.
Mais en fait, je porte beaucoup le verre aux lèvres, sinon le texte est tellement difficile à dire que je m'embrouillerai vers la fin, quoi.
Vous videz pas la bouteille pendant le spectacle.
Ça m'est arrivé une fois, mais j'ai eu du mal à finir.
Jamais.
C'était du Bourgogne qu'on m'avait mis sur la table. Un excellent
alors,
Bourgogne. Et hop, je me servais, j'ai fini ivre. Et une autre fois aussi, je jouais sur une péniche et il y avait les remous de la Seine à Paris. Si bien que je suis tombée sur les spectateurs. Enfin bon, parce qu'il y a une version cabaret de ce spectacle. C'est-à-dire que là, c'est une version théâtre, puisque ça ne se prête pas. Mais il y a une version où les gens boivent et mangent en même temps que le spectacle. Et là, je joue parmi les spectateurs et on trinque. Les buvons, on boit vraiment tous ensemble.
Ah, mais ça s'y prête totalement, hein.
Voilà.
Je te sens un peu nostalgique.
Ah, mais ça, c'est tripes au vin blanc, là, à mon avis.
Donc voilà, c'est une formule. En fait, c'est un spectacle qui nous a été commandé il y a assez longtemps par la bibliothèque de Fresnes à l'époque, qui hébergeait le Fonds départemental littérature. Et donc, m'avait commandé ce spectacle. Moi, je rêvais de le monter depuis l'âge de 15 ans, à Rabelais. Et je me suis dit, il faut que je le monte à 50 ans, parce que c'est trop dur. Et j'avais beaucoup moins que 50 ans à l'époque. Et je me suis attaquée à ce truc. Et on s'est mis ensemble. On a été deux à écrire. Il y a Nathalie Stora aussi qui a écrit. Et la composition musicale originale du spectacle a été faite à ce moment-là. Ben, je ne regrette pas du tout parce qu'il vit toujours dans différentes versions, avec toujours le même texte, quasiment toujours la même musique. Et donc, dans ses formules, solo, duo, avec le musicien, etc.
Je dois dire que l'accompagnement musical, la bande-son en tout cas, là, on avait que la bande-son, juste à la guitare, on traverse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des ambiances musicales plutôt du Moyen-Âge, en allant après vers quelque chose de plus Brassens, voire Vian. Ça donne envie même de voir le spectacle avec le guitariste de présent, hein, c'est vraiment super.
Voilà, là c'est la plus petite forme, hein, que vous avez vue, après la grande forme.
Ah mais c'est
forme,
déjà génial, hein.
La grande forme, on peut carrément être dans un restaurant et entre chaque plat faire un mouvement du spectacle, puisqu'il a 5 époques, donc jusqu'à l'abbaye de Thélème, où on voit les gens qui continuent à suivre, et puis ceux qui sont dans leur rôti et qui ne lèvent plus le nez. Et ça, c'est excellent aussi à voir. Il y a des gens qui mangent, qui n'écoutent plus rien, puis d'autres qui continuent à se dire « Ah oui, mais il y a quand même fait ce qu'on voudra, la devise de l'abbaye de Thélème, c'est quand même quelque chose de bien, on va un peu soulever la fourchette avant d'enfourner le morceau de viande. »
On va rappeler que le spectacle s'appelle « Vie inestimable du grand Gargantua ». C'est au Carré Rondelet. Je n'ai pas les horaires sous les yeux. Christopher, tu les as.
C'est 20h30 et dimanche, c'est...
Oui, ça joue ce soir et samedi à 20h30 et dimanche à 18h.
Voilà.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau de Vendredi Théâtre. Et allez écouter la musique de Rabelais.
Merci.
Même s'il y a des paix au milieu.
Voilà.
On va se séparer avec Je bois de Boris Vian.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Je bois sur Divergence FM, quel aveu, l'émission Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de l'actualité théâtrale, et nous recevons le dernier plateau de la journée. Il s'agit de l'inéluctable cabaret numéro 3, les Jeux Olympiques. Et oui, Florent va parler de sport, c'est une première sur Divergence FM, moi qui ne dépasse jamais les vestiaires. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Christophe Pujol, bonjour.
Bonjour.
Et Vera Schutz, bonjour.
Bonjour.
Alors le cabaret numéro 3, donc, c'est la série de tous les cabarets qu'il y a à la Vista ces dernières semaines. Et donc là, c'est un spectacle en rapport avec les Jeux Olympiques, mis en scène par Christophe Pujol. Alors, pourquoi d'abord avoir choisi les Jeux Olympiques, à part l'actualité proche?
Parce que cette année, au Théâtre La Vista, on a développé un nouveau spectacle qui est sur le thème du tennis, qu'on joue l'après-midi, en jeune public. Et on nous a proposé un cabaret le soir avec carte blanche, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et je suis parti sur cette idée, c'était il y a un an déjà, de faire des Jeux Olympiques, donc d'inviter des artistes pour venir faire du sport sur scène. Avec, je crois que bon, j'arrive à 40 ans, je me suis dit, peut-être que je vais mettre un jour au sport. Et j'ai décidé de le faire, mais sur scène, et d'entraîner avec moi tous ceux qui étaient prêts à le faire. Et on a monté ce cabaret qui est en fait... des Jeux olympiques officiels qui se déroulent depuis hier déjà et qui contient des athlètes assez hallucinants.
Mais rassurez-moi, vous n'avez pas eu 37 milliards de budget.
On les a demandés à la DRAC et on n'a toujours pas la réponse.
Alors, quels sports sont représentés? Donc, vous verrez, vous faites quoi exactement comme sport sur scène?
Alors, moi, aux Jeux olympiques, je représente le patinage artistique contemporain.
Ah oui, très important.
Oui, surtout le contemporain.
Oui, le contemporain est tout à fait vital. Hein.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous faites sur scène? C'est un petit peu difficile à expliquer parce que c'est très gestuel.
Ben oui, comme dans Olympitre, il y a quand même la partie pitre qui prend une grande place. Donc oui, c'est un peu une parodie des sports, je sais pas, un peu arté ou un peu contemporain qu'on a l'habitude de voir. Donc on s'est un peu amusé autour de ça. Donc c'est assez conceptuel et contemporain, mais tout en restant vraiment accessible et rigolo.
Ah ça c'est rigolo, ça je vous garantis. Moi j'étais mort de rire du début à la fin. Alors quels autres sports sont représentés? Parce qu'il y a un petit peu, il y a le football, mais c'est vous qui faites le gardien de but si je ne me trompe pas.
Ah oui exactement, je me suis quand même gardé un petit numéro parce que bon, toute la soirée, bon, en dehors de l'organisation, je fais aussi la présentation, je suis le fil rouge un petit peu de toute cette soirée.
Monsieur Loyal.
Le monsieur Loyal, le présentateur sportif qui annonce les numéros. Les sports. Et sinon, on a des sports. On en a beaucoup. On a l'haltérophilie.
Oui, là, c'est difficile hein, pour l'haltérophile. Hein, ça...
Ah, c'est pas facile.
Il fait trois essais.
Ah oui, il a droit à trois essais.
Il a des petites aventures. Hein.
On a le 200 mètres nage libre.
Ah, très important, ça. Le 200 mètres nage libre, les séances de qualification sont extraordinaires.
On révèle rien.
On révèle rien.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'escrime.
Oui.
On a du rugby aussi.
Ah, le rugby, grand moment. Hein. Le drop au rugby, c'est un moment inoubliable.
Alors, moi qui suis un grand fanat de rugby, oui, je pense que c'est aussi un de mes passages préférés. Et beaucoup d'autres, ça m'échappe là tout d'un coup.
Le lancer de poids.
Le
lancer de poids.
Et il y a un moment, il y a une petite rupture dans le spectacle, c'est quand on parle de cyclisme.
Oui, on a voulu justement... intégrer quelque chose un peu différent à un moment donné. Mmh. Et on a Sébastien Portier de la compagnie L'Appel du Pied qui est venu nous faire un cycliste très particulier. Ouais.
C'est un hommage à Pérec ?
Eh bien, dis donc. Ouais, exactement, c'est vrai. Ouais.
Moi, j'ai pensé à Samy Fray quand j'ai vu le passage.
Eh bien, c'est ça, il est arrivé d'entrer avec cette proposition. Comme on se connaît bien avec Sébastien, on avait...
Et c'est le texte de Georges Pérec ?
Non, c'est lui qui l'a écrit.
Je me suis dit...
C'est Sébastien qui a écrit
son propre... C'est la même chose, c'est-à-dire « je me souviens, je me souviens, je me souviens », mais là, c'est en rapport avec le cyclisme.
Exactement.
Mais il est pas mal, le texte. Hein. Il est vraiment pas mal. Hein. C'est
très bien. Et ça donne une touche complètement différente au milieu de ce spectacle, puisqu'on part vraiment sur du burlesque pendant à peu près 40 minutes. Et là, arrive ce cycliste de nulle part qui vient nous mettre plus dans l'émotion à un moment donné. Et puis on en ressort pour repartir vers ces Jeux olympiques. C'était un passage improvisé au début dans l'écriture. On était avec Seb qui lui a fait une école de mime, etc. Mmh. Donc on était parti vraiment sur le jeu tel que les autres athlètes le font dans la soirée. Quelque chose de très gestuel. Et puis il est arrivé avec cette autre proposition, on a travaillé dessus un petit peu et comme il a énormément travaillé seul dans son coin et ça lui faisait plaisir, on a laissé ça. Et hier soir on a testé, puisque hier soir c'était la première et apparemment c'est passé.
Alors lui il pédale sur scène, d'habitude il y en a qui rament mais lui il pédale.
Voilà. On finit tous assez épuisés, chacun a ses courbatures parce que voilà, l'idée c'était vraiment de se mettre dans la peau de sportif.
C'est vrai, quand on arrive au théâtre pour retirer ses places, on voit qu'il y a plein de gens en survêtement ou en tenue de sport, ce qui est un peu inhabituel. Il y avait Lise qui était en survêtement.
Même Lise, la directrice de la Vista, rien que pour ça il faut venir, a accepté de mettre une tenue de sport, c'est qu'on a dû négocier pendant à peu près 6 mois.
Ah, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, elle m'a dit c'est la dernière fois. Hein, ouais. C'est la dernière fois.
C'est ça qui est chouette, c'est que tout le monde a joué le jeu. On est parti sur une idée un peu absurde et tout le monde est rentré petit à petit dans cet univers. Parce que c'est un univers, et comme vous l'avez vu hier soir, il se passe des choses un petit peu partout. On a des caméramans.
Il y a qu'il y a la vidéo. Il y a la vidéo, il y a le village olympique, voilà, tout y est.
Il y a le village olympique qui se trouve pas loin du stade dans lequel nous jouons. Il y a cette interaction, il y a cette façon de singer la télé.
Il y a la piscine olympique aussi.
Il y a la piscine olympique.
Tout ça
dans un petit lieu. Ouais. Et ce jeu qu'on a expérimenté avec la caméra, le direct... la possibilité de bouger. On travaille aussi avec du HF. Maintenant, on y arrive parce qu'on avait déjà essayé il y a quelques années.
Est-ce que vous avez retrouvé le rugbyman? Parce qu'à un moment, le rugbyman, je ne sais pas ce qui se passe, il va faire son drop et puis on ne le voit plus.
Voilà, là, je pense qu'on a eu des nouvelles, il est vers Palavas.
Il a pris de l'élan, dites donc.
Sacré élan.
On va rappeler quand même que le principe des cabarets à la Vista, c'est qu'il y a plusieurs compagnies qui sont ensemble et qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Comment ça s'est passé, ce travail-là, pour vous? Parce qu'à chaque fois, ça change de metteur en scène. Hein. Il y a eu Luc Miglietta pour la première, Didier Chex pour la deuxième, et vous maintenant pour la troisième. Comment ça s'est passé pour vous?
Pour nous, parce que chacun, on a carte blanche. Donc vraiment, on faisait de ce cabaret, on en fait ce qu'on veut. Là, moi, je suis parti comme sur l'idée de carrément écrire le spectacle, écrire le cabaret. Et après, proposer à des acteurs de diverses compagnies de venir s'intégrer dans cette idée. Et après, d'amener eux ce qu'ils pouvaient. Donc, ça s'est passé comme ça au début, en discutant, tout le monde était très partant. Et puis après, concrètement, il a fallu répéter, il a fallu travailler. Mmh. Et donc, personne. On n'a jamais, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais travaillé ensemble. On ne s'est pas retrouvé à 15 un seul jour.
Il y a combien de compagnies en tout?
Je dois en avoir 8 ou 9 qui sont représentées.
C'est pas évident de trouver un moment où tout le monde soit là.
Non, non parce que ces cabarets, on les fait vraiment pour la Vista à la base, puisque c'est une idée de Lise d'essayer de faire se réunir un maximum d'artistes à un moment donné. Les cabarets qui ont eu lieu ces dernières années ont toujours été vraiment pour le public des moments...
Des grands moments.
Des grands moments. Des grands moments. Ouais, les cabarets marchent très très bien à la Vista. Il y a des créations, il y a énormément de créations. Donc à un moment donné, ça fait aussi des respirations dans la programmation. On vient voir quelque chose de beaucoup plus léger, on va dire. Voilà, et aussi avec des acteurs et des compagnies qui peuvent venir tester un numéro ou essayer quelque chose d'un peu original ou sortir un petit peu de leur terrain pour venir essayer autre chose, très détendu. Là, c'est carrément détendu parce que on a sollicité tout le monde et voilà, dans ce métier-là, ceux qui le savent, on n'est déjà pas énormément payé, mais là c'est carrément rien.
C'est un euphémisme.
Voilà, là on a voulu vraiment faire vraiment le contraire des Jeux Olympiques actuels, c'est qu'il n'y a rien, pas d'argent du tout. Donc,
Zéro budget.
Donc avec l'imaginaire, avec la volonté, etc., avec l'envie de s'amuser et de s'amuser avec le public aussi, on a composé ça. Et hier soir vous y étiez.
Ah oui. Alors que va devenir la Vista? C'est la question que tout le monde se pose parce que Lise, elle s'en va.
Voilà, c'est ça. Lise voulait aussi cette année, comme c'est sa dernière année de direction.
Ça faisait 14 ans qu'elle était à la direction. 14 ans de bonheur quand même.
Exactement.
Alors, et pour les comédiens et pour les spectateurs.
Nous, on ne dramatise pas parce qu'on la connaît très bien. Moi, je fais partie de ces gens qui sont déjà dans ce théâtre depuis une dizaine d'années ou qui ont joué avec diverses compagnies, que j'ai créé des spectacles à l'intérieur. Donc, on n'arrive pas quelque part à y croire, mais c'est simplement qu'il va y avoir un changement. Mais on ne sait rien, c'est ça le truc.
Oui, c'est ça, c'est qu'on est en pleine expectative.
Exactement.
En plus, je crois qu'il doit y avoir des travaux. On ne sait pas très bien ce que ça va devenir. Lieu, parce qu'il n'y a pas que le théâtre de la Vista, c'est tout le lieu qu'il y a autour aussi.
Exactement, c'est très particulier. Ça a eu existé dans d'autres villes, des lieux comme ça qui se montent un petit peu d'une manière anarchique au début, qui se structurent, qui montent des associations. Donc, à un moment donné, on fait des liens avec la mairie, avec des soutiens institutionnels. Mais on est toujours dans cet entre-deux de dépendre, en fait, de la volonté d'un privé, puisque là, en l'occurrence, s'il y a autant de compagnies, autant d'associations artistiques, culturelles dans ce lieu, théâtre compris, c'est parce que c'est la volonté d'une mécène, en quelque sorte, une dame qui a accepté de louer les anciens entrepôts Vergne, puisqu'elle en est, c'était son mari qui dirigeait tout ça, et qui en est le propriétaire, elle seule a décidé d'ouvrir ça à des artistes. Et tout dépend en fait de cette dame. Et cette dame est très âgée.
Elle a plus de 90 ans.
Voilà. Et l'avenir dépend en fait de... On se retrouve face à un...
J'imagine qu'il y a des promoteurs qui sont aux aguets. Il y a des rapaces. Hein.
Je vous le laisse dire. À mon avis, oui, c'est ça. Donc on est vraiment dans une situation où... on est sur la sellette, voilà. Enfin, tous ceux qui sont résidents dans ces structures, tous ceux qui habitent là quelque part et qui travaillent là, savent qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà, elle va tomber à un moment donné et on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Donc on essaye de solliciter les institutions pour qu'ils prennent bien conscience qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est fait dans ce lieu, qui s'est fait seul. Encore une fois, c'est une initiative qui vient d'en bas, mmh. et pas une initiative qui vient des institutions. Mmh. Donc voilà, on se retrouve avec à un moment donné, ils peuvent lâcher parce que s'ils nous soutiennent pas, c'est terminé. Chacun part dans son coin et il n'y aura plus ce lieu à Montpellier. Et ce serait vraiment dommage parce qu'il y a,
il
y a vraiment aussi une activité sur le quartier, le Théâtre de la Vista. On a joué ce matin notre nouveau spectacle Babal. On le joue pour les enfants de la cité Gély. Voilà, on le joue pour les enfants des associations qui sont dans le quartier. Les gens du quartier ont un tarif réduit. Voilà, c'est un vrai théâtre de quartier qui fait venir aussi des gens d'au-delà. Et ça, ça risque de disparaître. Moi, j'arrive pas à y croire, parce que c'est pas possible. Mais c'est vrai que sur le papier, ça peut disparaître.
Oui, c'est ça. D'où notre inquiétude à Divergence FM et à Vendredi Théâtre, parce que nous, c'est un théâtre que l'on aime beaucoup. Et on nous y voit régulièrement et on essaye de rendre compte de tous les spectacles. Et je vois Christopher qui hoche la tête d'un air approbateur.
Et le meilleur moyen de soutenir, en fait, ces lieux, si on les aime, etc., c'est nous de créer des spectacles qui font venir les gens et aux gens de venir. En fait, en venant dans ce théâtre, les prix sont vraiment dérisoires. C'est moins cher qu'une place de cinéma.
Ah oui.
Donc,
Quel accueil en plus.
Ah ouais,
chaque fois, on est accueillis, nous, à Divergence, on est accueillis. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui viennent dans les petits théâtres. On en voit
non, par rapport au nombre de journalistes et de médias qui pourraient, oui, c'est sûr que c'est pas énorme.
Et comme il y a peu de radios qui font une émission de théâtre d'une heure toutes les semaines, ayant vu les spectacles. Voilà,
c'est-à-dire que notre agenda presse en ce moment est très peu rempli. Là. Après vous, on va boire un café.
On va rappeler donc que c'est l'inéluctable cabaret numéro 3, les Jeux Olympitres. Est-ce que vous pouvez me rappeler les horaires du spectacle?
On joue ce soir à 19h, enfin, c'est en fin d'après-midi. On joue demain samedi à 21h. Et on joue dimanche à 18h30. Alors voilà, si vous avez vous avez envie de venir, je vous conseille d'appeler, mais tout de suite, parce qu'on joue très peu et que c'est quasiment plein, en fait.
Et l'autre spectacle que vous jouez en alternance, c'est Babal.
Babal, c'est notre création avec...
Ça parle de tennis.
Oui, voilà, exactement. Là, c'est un match de tennis qui dure 50 minutes avec trois comédiens. Et bon, je ne vous en dis pas plus. Et ça se joue, ça, en programmation jeune public l'après-midi.
D'accord.
Voilà,
pour à quelle heure?
À 4h, 16h, samedi et dimanche.
D'accord. Donc merci de nous avoir accompagnés pour ce dernier plateau de Vendredi Théâtre. Alors j'ai remarqué, parce que moi je suis assez mélomane, j'ai l'oreille musicale, qu'à la fin de l'hommage à Je me souviens, il y avait un petit morceau de musique classique et il me semble avoir reconnu du Schubert. Un trio pour piano, violon et violoncelle en si bémol majeur. On va se quitter avec cette musique dans une version faite par Alfred Cortot, Jacques Thibault, Pablo Casals, enregistrée en 1926. Voilà, Vendredi Théâtre, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour explorer à nouveau l'actualité théâtrale. Et bonne semaine théâtrale à tous. Merci Gilles.